Philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 13 février 1992.
Poser une question. Le jugement d'existence, puisqu'on est dans la critique des jugements, est-il au-delà de la critique? Ou doit-on critiquer le jugement d'existence? Vous voyez que cette question, en fait, c'est une réponse à Kant. La position de Kant, qui a marqué très fort, hein, beaucoup plus qu'on ne pense, Descartes, Kant ont marqué notre Occident. Si on est français, on est cartésien, si on est allemand, on est kantien. Et comme la philosophie allemande a une très grosse influence sur la pensée française, on peut dire que Kant a une influence énorme sur la pensée française. Clavel, le dernier livre de Clavel, il s'est converti, mais il est resté kantien. Et c'est intéressant ce point de vue-là. De voir. C'est... Alors, pour Kant, la critique est antérieure à la métaphysique. Pas de métaphysique sans critique. Je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est un peu, c'est quasi inintelligible. Mais il faut voir que pour beaucoup c'est comme ça. Parce que il me semble que toute critique porte sur une connaissance antérieure à la critique. Le jour où il n'y a pas de connaissance antérieure à la critique, mais c'est le serpent qui mord sa queue. Alors, au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qui reste. Parce que peut-on critiquer? Si la critique est première, on critique la critique. Et critiquer la critique, ça ne signifie rien. Ce qu'on ne peut critiquer, que ce qui est critiquable. Ce qui est déjà critiqué n'est pas critiquable. Mais l'acte est la puissance, tout simplement. Il me semble, moi. Alors, vous voyez, c'est un problème, au fond, à la fois très simple, c'est du bon sens, mais il faut une philosophie réaliste pour ça. Si vous n'avez pas de philosophie réaliste, vous dites que toute la philosophie repose sur les idées. Alors les idées, d'où viennent-elles? Si les idées sont innées, elles sont au-delà de la critique. Elles sont innées. Pour Descartes, les idées sont innées. Pour Kant, il y a quelque chose qui est au-delà de la critique. C'est les formes a priori. Qui sont innées. Donc, vous voyez, dire que la critique est antérieure à la philosophie, c'est pas juste, même pour Kant, c'est contradictoire avec son système. Parce que les formes a priori sont transcendantales, et elles dépassent. Donc, toute sa philosophie repose sur les formes transcendantales, voilà ce qu'on peut dire. Et les formes transcendantales sont quelque chose d'antérieur. Et que tout ce qui est critiquable, c'est l'application des formes transcendantales au réel et à l'expérience. Puisque pour Kant, l'expérience est seconde, elle est critiquable. Pour nous, l'expérience est première. Dans une philosophie réaliste, dans une philosophie réaliste qui consiste à considérer que l'expérience est source de ma connaissance. Et pourquoi je dis ça? À cause de l'expérience. Je progresse grâce à mes expériences. Je progresse dans la connaissance grâce à mes expériences, à mes rencontres, à mes lectures. C'est comme ça que je progresse. Si je progresse grâce à mes lectures, à mes rencontres, je considère que l'expérience est quelque chose de fondamental dans ma vie intellectuelle. Si l'expérience est quelque chose de fondamental à ma vie intellectuelle, je précise deux types d'expériences. Une expérience qui implique les sens externes et une expérience purement intérieure. L'expérience purement intérieure est seconde. Elle présuppose une autre expérience. Alors, je peux dire que je peux critiquer mon expérience interne par mon expérience externe. Ah oui, puisqu'elle est seconde. Mais mon expérience externe, je touche cette table. Est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur à ça? Je touche cette table. Je vois au marché des navets. Est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur? Je rencontre tel ami. Je dis bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur à cette rencontre? Oui. C'est là où il faut essayer de comprendre que l'expérience est quelque chose de premier dans ma vie intellectuelle. Et parmi les jugements, le jugement d'existence, ceci est. Y a-t-il un jugement antérieur à ceci est? Si un jugement antérieur à ceci est, dites-le-moi. Ça m'intéresserait. Pour moi, il n'y en a pas. C'est sûr que la scolastique décadente n'a pas du tout mis ça en relief. Que le jugement d'existence est le jugement premier. On est parti de la définition. Et non pas du jugement d'existence. Autrement dit, on n'a pas respecté ce que le vieil Aristote disait. La première interrogation, est-ce que cela existe? Je fais la philosophie de ce qui est, et non pas la philosophie du possible. Si je fais la philosophie de ce qui est, le jugement d'existence me mettant en présence de ce qui est, c'est quelque chose de premier. Alors, ce que je peux faire, c'est d'étudier la complexité de ce jugement d'existence et de voir comment ce jugement d'existence peut, dans certaines circonstances, ne plus être un jugement d'existence. Et donc, une déviation. Que ce jugement d'existence peut très bien ne pas être le jugement d'existence au sens fort. Donc il n'est plus premier. Et si je prends ce jugement d'existence au sens le plus fort, à ce moment-là, je ne vois pas comment je peux critiquer l'être quand je dis ceci est. Est-ce que l'être est critiquable? L'être en acte, ceci est. Est-ce que c'est critiquable? Pour moi, c'est pas critiquable, puisque c'est la mesure de ma connaissance. Si la mesure de ma connaissance est critiquable, qu'est-ce qui va critiquer cette mesure? Oui, c'est le serpent qui mange la queue. Je critique, avec quoi je critique? Connaissance, je présume du moins. Ou bien je critique avec ma foi. Ah, ça c'est différent alors. Mais même là, je dirais, la foi, elle n'est pas critiquable. Parce que c'est une connaissance divine. Mais ma foi ne critique pas ma connaissance intellectuelle. race présuppose la nature. Alors, bien je tombe dans le fidéisme et je dis que toute la connaissance est critiquable par la foi, ce qui est faux, ce qui est condamné par l'Église. Vous voyez, je critique au nom de quoi ? Je ne peux critiquer qu'au nom de ma connaissance. Mais si le jugement d'existence est considéré comme la source de toute ma vie intellectuelle, puisque c'est le contact de l'intelligence avec ce qui est, au nom de quoi je vais critiquer ? Est-ce que l'être est critiquable ? Est-ce que la connaissance que j'ai de ce qui est critiquable ? Quand saint Thomas affirme « Primo cadidi intellectus ens »,« Primo », il montre bien que tout repose sur la connaissance que j'ai de ce qui est. Et c'est pas parce que saint Thomas le dit, mais c'est tout simplement parce que je suis en présence de la forme la plus simple, la plus primitive et la plus fondamentale de ma vie intellectuelle dans le jugement d'existence. Posez-vous la question, qu'est-ce qui peut critiquer le jugement d'existence ? Si vous trouvez, vous me le direz. Et je vous montrerai que ce que vous dites est faux. Et ça m'intéresserait quand même. Ça m'intéresse de montrer que ce que vous dites est faux. Pour vous remettre dans l'humilité. Pour vous remettre dans l'humilité intellectuelle. Avant ma connaissance, il y a la réalité. C'est difficile de ne pas reconnaître ça. Avant que j'ai connu, j'existais. Il y a des témoins, ça. Donc si avant que je connaisse, il y a l'exister, l'exister comme tel est antérieur à toute connaissance. L'être est antérieur à toute connaissance. Et donc il n'est pas critiquable. Il est. Parménide. Il faut réfléchir là-dessus, mais profondément, pour que nous en soyons convaincus. Et quand quelqu'un dit que le jugement d'existence est critiquable, posez tout simplement la question, au nom de quoi ? Je critique toujours quelque chose au nom de quelque chose qui est antérieur à ce que je critique. Au nom de quoi ? Je ne sais pas ce qu'on peut dire à ce moment-là. On peut dire, je critique le jugement d'existence au nom de mon idée d'être. Mais mon idée d'être, j'en ai pas avant le jugement d'existence. Alors, ce que je peux faire, vous voyez, c'est de voir la complexité de ce jugement d'existence. S'il est complexe, et c'est vrai, il est complexe. Il y a toujours possibilité que ce jugement d'existence déraille. Ah, je suis tout à fait d'accord. S'il n'y a aucune possibilité de déraillement, j'aurais pas besoin d'insister tellement. On serait tous immédiatement d'accord. Mais il y a des déraillements possibles. Alors, quels sont ces déraillements possibles ? C'est de s'arrêter en route, comme toujours, un peu de grève. On s'arrête en route. On n'aboutit pas. Le jugement d'existence implique que mes sensations et surtout le toucher soient présents. Quand je dis ceci est, je l'indique du doigt et je le montre et je le touche. Quand je dis ceci est, c'est ce que je vois. Je ne peux pas dire ça, parce que je peux dire que ce que je vois n'est pas toujours la réalité telle qu'elle est. La lune, je la vois sous des formes différentes. Il y a la petite lune. grosse lune. Alors, est-ce qu'elle est grosse ou est-ce qu'elle est petite? Bon, vous pourrez rectifier ça en critiquant votre jugement d'existence. Mais voyez, le jugement d'existence porte-t-il sur la grosseur de la lune et la petitesse de la lune ou sur l'existence de la lune? Le jugement d'existence ne porte que sur l'exister. Rien d'autre. Et toutes les confusions sont venues de là. Ce que Descartes a dit, je peux me tromper. Oui, mais je peux me tromper. Non pas sur le jugement d'existence, mais sur les modalités de ce jugement d'existence. Alors là, c'est très vrai. Mais le jugement d'existence impliquant l'alliance de l'intelligence et du toucher. Alors je peux avoir des hallucinations tactiles. C'est rare. Vous savez bien, les psychologues le disent. Hein. Les hallucinations de la voix intérieure. J'entends des voix. Mais vous avez tous entendu des voix. J'entends des voix intérieures. Alors est-ce que cette voix est imaginative? Où est-ce que cette voix est réelle? J'entends des voix. J'entends une musique intérieure. Alors, est-ce que cette musique intérieure est réelle ou est-ce qu'elle est imaginative? Il peut y avoir des hallucinations. Je sens des odeurs extraordinaires. Il y a des êtres qui sentent des odeurs extraordinaires. Alors, disent que c'est la Sainte Vierge. Très bien. Possible. C'est possible. Je n'en sais rien. C'est très subjectif. À côté, il y aura quelqu'un qui ne sentira rien du tout. Ah, si celui à côté sent, on peut dire que, quand même, peut-être. Il faudra savoir si il n'y a pas de parfumeurs qui ont passé avant. C'est peut-être existé, c'est ça. Quelle est la sensation la moins critiquable? C'est le toucher. C'est là où les hallucinations sont le plus difficiles. C'est le toucher. Pourquoi? Parce que les hallucinations, c'est l'imaginaire qui l'emporte sur la sensation externe. Je suis dans un cocon imaginaire. Alors j'entends des voix. Qu'est-ce qui dira que ces voix sont imaginatives ou ces voix sont réelles? C'est pas commode à dire. Hein. Puisque par définition, vous les entendez à l'intérieur. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Pas commode. Je comprends très bien que le seul sens qui me donne l'objectivité parfaite du jugement d'existence, c'est le toucher. C'est ça que je peux encore me tromper quand je vois la lune. Est-ce que je la vois vraiment? C'est les apparences de la lune. Alors si à côté de moi, il y a quelqu'un qui dit « Mais c'est un imbécile, quoi. Mais c'est évident que c'est la lune. » Oui, alors vous avez un scrupule. Et celui qui vient à côté de vous et qui vous dit ça, on est deux, on va voir si on est trois. Puis le troisième, il dit aussi « Bon, il y a des chances qu'on voit la lune. » Parce que je n'ai pas touché la lune. Je n'ai pas le privilège d'avoir été cosmonaute. Peut-être qu'aujourd'hui, pour être un vrai philosophe, il faut avoir été dans la lune. C'est possible. Au moins pour faire une philosophie de la nature. Parce qu'on a une expérience de la Terre différente si on la regarde de la lune que si on la regarde d'ici. Est-ce que être cosmonaute modifie ma philosophie? Ça, c'est un très beau petit travail. Est-ce que être cosmonaute modifie ma philosophie? Est-ce que l'expérience qu'on peut avoir d'aller 5, est-ce que ça me modifie? Après tout, je pourrais partir ma philosophie à partir de l'expérience du cosmonaute. Pour être tout à fait moderne, la philosophie de l'an 2000, c'est celle du cosmonaute. Parce que du haut à la Lune, on respire mieux, n'est-ce pas? On respire un air plus frais. Et donc, à partir de là, mon intelligence est complètement développée. Il y a des tas de choses que je n'avais pas vues avant. Et j'écris une philosophie du cosmonaute. Jules Verne a fait ça. Quelles sont les expériences qui modifient ma vie? L'expérience vitale. C'est important quand même de se poser la question. Quelles sont ces expériences qui modifient ma vie? Eh bien, je verrai que l'expérience fondamentale et dernière, c'est l'expérience qui porte sur la réalité qui existe. J'existe, je suis. Ça modifie ma vie. Parce que si je n'étais pas, je ne sais pas ce que je ferais. Si j'affirmais que mon corps n'existe pas, et que j'affirmais comme une réalité absolue,
au-delà de tout.
je vous laisse à cette réflexion. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous les poserez. Parce que c'est capital, ça. Autrement, je dirais la critique est antérieure à la métaphysique, à la philosophie. Selon Kant. Et nous devons critiquer Kant et montrer que Kant, c'est un a priori. Et la raison profonde, c'est que Kant, de fait, identifie la connaissance philosophique à la connaissance scientifique. Toute connaissance scientifique est critiquable parce qu'elle n'est pas première. Tandis que la connaissance philosophique, elle est sagesse. Elle est première et ultime. En tant qu'elle est première et ultime, elle est au-delà de la critique. Alors je continue. La diversité des jugements. C'est très important de comprendre ça. Il y a le jugement d'existence. Et à partir du jugement d'existence, il y en a d'autres. Des jugements qui ont des modalités particulières. Des modalités particulières pour affirmer l'existence de telle ou telle réalité. L'existence de telle ou telle réalité. Et vous avez des jugements qui portent sur le possible. Donc des jugements qui portent sur ce qui est et des jugements qui portent sur le possible. Des jugements hypothétiques. Il est possible que. Il est nécessaire que. J'aurai des jugements scientifiques, de conclusions scientifiques. Et j'aurai surtout des jugements qui font découvrir les principes propres. Alors c'est intéressant d'énumérer tous ces principes propres. En critique, on peut le faire. La critique est au service de la philosophie. Vous n'avez pas tellement de jugements propres, de principes propres en philosophie. Et vous devez les énumérer tous. En philosophie pratique, qu'est-ce qu'il y a comme jugement, comme découverte de principes propres? C'est la découverte de l'expérience du travail qui me montre que toute activité fabricatrice, réalisatrice, est ordonnée à une œuvre. Et que ce travail artistique est déterminé par une idée. Il provient d'une idée. Ce travail est déterminé et orienté par l'idée. Il coopère avec une matière. Et est en vue la réalisation d'une œuvre. Vous découvrez là les principes propres de l'homme transformant l'univers. Être dans le monde, c'est transformer le monde. Dès que l'homme a été dans le monde, il l'a transformé. Et vous avez donc cette relation de l'homme vis-à-vis du monde et ses principes qui montrent comment l'homme, en vue de quoi, pourquoi l'homme travaille. Il travaille pour réaliser une œuvre, finalité. Il travaille grâce à l'idée qu'il a. Il travaille en possédant une idée qu'il a lui-même élaborée. l'univers extérieur et l'univers intérieur. Son propre corps. Il peut faire de la gymnastique. Et par là, il transforme son corps. Ce petit univers qui est le corps est transformé par cet art qui coopère à la nature, qui est la gymnastique. Il peut danser. Et ainsi de suite, vous voyez. Alors progressivement, il découvre les quatre principes propres du travail, ou les cinq principes propres du travail. Donc, vous avez d'abord les cinq principes propres. En critique, vous devez y comprendre. De l'expérience du travail. présente ce qui émue, la réalité de qui émue la plus parfaite. Vous avez quatre principes propres du corps de l'homme. J'ai l'expérience de mon corps. Puis, les quatre principes propres de ce qui se meut, le vivant. Vous avez ensuite les deux principes propres de ce qui est, en tant qu'il est. La substance et l'être en acte. La forme et la fin. Et ensuite, vous pouvez découvrir la découverte du principe ultime. Du principe ultime, puis du principe propre. L'être premier. Entre ces principes propres et ce principe ultime. Dieu est cause universelle de tout ce qui est. S'il est cause universelle de tout ce qui est, il est principe ultime de tout ce qui est. Mais Dieu n'est pas cause propre de ce qui est. Il est cause ultime. Ça fait partie des connaissances que j'ai. Je peux en toute vérité affirmer, il est nécessaire qu'il existe un être premier qui est cause ultime de tout ce qui est. Il est cause première de tout ce qui est, qui est créateur. Donc c'est l'affirmation d'un principe. Je découvre ensuite, et ceci c'est aussi important, non seulement les principes propres, mais causes propres. Le principe ultime ou la cause ultime, cause dernière. Et je découvre en plus ce qu'on appelle les axiomes. Ça fait partie de tous les jugements que je connais, les axiomes. L'axiome premier au plan critique, les axiomes au plan critique. Qu'est-ce que je découvre comme axiome? Je découvre cet axiome premier, fondamental, le principe de non-contradiction. C'est un axiome. Ce n'est pas une cause. Et je découvre donc cet axiome au niveau de l'être, l'axiome au niveau du devenir, tout ce qui est mu par un autre. C'est un axiome, celui du devenir. Au niveau du vivant, y a-t-il un axiome? Quand je dis que le vivant est celui qui se meut, est-ce que c'est pas un principe propre? C'est un axiome. Celui qui se meut. Et celui qui est mu, et celui qui se meut. Tout ce qui est mu par un autre. Tout ce qui se meut est le vivant, est vivant. Alors c'est intéressant de se mouvoir.